else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 24 novembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Carole Laborde-Sylvain. Bonjour Carole.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman intitulé « Demain, ça va recommencer » publié aux éditions Edilivre. Mais avant, la page info. Tout d'abord, dimanche 26 novembre à 15h à la salle du Sénéchal rue de Rémusat à Toulouse, dans le cadre du marathon d'automne, le comédien Dominique Pinon prêtera sa voix au personnage du nouveau roman de Pascal Dessin qui s'intitule « Un homme doit mourir » et qui est publié aux éditions Rivage et c'est entrée libre. Ensuite, mercredi 6 décembre à 20h30, à la salle, non pas du tout à la salle, à la médiathèque de Tournefeuille, 1 impasse Bailac. Le café littéraire de Tournefeuille animé par Paul Claudel vous donne rendez-vous autour du livre « Soumission » de Michel Houellebecq. Et le prochain rendez-vous de ce café littéraire aura lieu en janvier 2018. Et puis la dernière info, samedi 9 décembre de 15h30 à 17h30 à la librairie Gibert, 3 rue du Thor à Toulouse, rencontre avec Marie-Constance Mallard et son livre jeunesse « Une aventure de Violette Mirgue, le trésor du canal du Midi » publié aux éditions Priva, et Adrien Poissier, illustrateur du livre jeunesse « Léo l'aviateur, le livre perdu de l'aéropostale » publié également aux éditions Priva. Un goûter et des coloriages clôtureront cette rencontre avec les auteurs de ces deux albums qui raviront vos pitchous, j'en suis certaine. Merci à celui qui fait la technique de cette émission aujourd'hui et dont je n'ai pas le prénom, mais en tout cas merci à lui. Alors, Carole Laborde-Sylvain, dessinatrice aéronautique de métier et écrivain de cœur depuis vos années collège.
C'est ça.
Alors, vous étiez venue à Page présenter Baptiste Adelin et le cirque Borzati, publié aux éditions Mélibé.
Oui.
C'était le premier roman publié.
Oui.
Et puis le second, Une nouvelle famille, publié également aux éditions Mélibé.
Exact.
Ça va être donc récidivé.
C'est ça.
Et puis aujourd'hui, vous revenez à Page avec Demain, ça va recommencer, publié cette fois aux éditions Edilivre.
C'est exactement ça.
Alors, ce livre-là dont on va parler aujourd'hui aborde un thème fort et malheureusement très actuel, celui du harcèlement scolaire.
Tout à fait.
Et c'est un roman pour les jeunes lecteurs, mais aussi pour leurs parents, car comme vous l'écrivez très justement d'ailleurs au début de ce livre, lorsqu'un enfant souffre, une mère, une famille souffre également.
C'est vraiment vrai.
C'est tout l'entourage qui est concerné finalement par ce problème.
Oui.
On va le voir d'ailleurs au cours de ce roman, qui est une fiction, mais qui reflète bien la gravité de cette situation et qui nous fait réfléchir aussi sur la vigilance et l'attention que l'on doit porter aux signaux, si je peux dire, annonciateurs d'un harcèlement scolaire.
Vous en parlez très très bien, c'est exactement ce que je voulais en faire.
Voilà, c'est le but de ce livre en fait.
Exactement.
Pour que les parents, les équipes pédagogiques puissent s'en servir, enfin puissent avoir leur attention et leur vigilance accrue par rapport à ce problème qui est récurrent maintenant.
Exactement. C'est vraiment...
Alors, on va parler un peu de l'histoire et des personnages. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Lily, qui a 9 ans, qui est en classe de CM1 dans une école standard.
Oui.
Voilà. Alors, elle a une sœur, Alexandra, qui est au collège en 6e. Elle a des parents, Marie et Philippe, qui sont des parents aimants, attentionnés, qui travaillent tous les deux.
Oui.
Donc, voilà, une famille sans problème.
Classique.
Hein. Classique, si on peut dire. Voilà. Alors, l'histoire se déroule sur 1 an, d'une année scolaire de septembre à la suivante. Et voilà, puis après, il y a le petit épilogue, voilà,
oui.
Où là, on saute quelques années et on retrouve Lily en classe de terminale. Alors, Lily est donc au début de cette histoire, elle est au CM1. Elle a comme institutrice Madame Valois et elle a beaucoup d'amis, essentiellement des filles, mais elle a Jules aussi comme copain.
Oui, il y a un très, très bon copain.
Voilà, et un bon garçon, enfin, je veux dire, un gentil garçon. Alors, c'est une élève sérieuse, qui aime l'école, c'est une fillette épanouie, souriante et sans problème particulier. Voilà, ça c'est Lily. Et pourtant, dès le mois de septembre, donc dès le mois de la rentrée scolaire en CM1, eh bien, Lily commence à avoir des problèmes. D'abord, c'est des problèmes d'alimentation.
Oui.
Elle commence à mal manger, à moins manger le soir, même ses plats préférés.
C'est ça.
Elle dit qu'elle n'a pas faim et on apprend par la suite qu'elle a certaines de ses copines qui lui ont dit qu'elle était trop grosse.
Voilà.
Bah, déjà, ça commence.
Voilà,
avec des problèmes d'alimentation. Et puis, alors, sa sœur Alexandra qui tient un journal intime et on peut d'ailleurs y lire des extraits comme par exemple celui où elle dit que Lily pleure beaucoup et se dispute avec elle et c'est assez inhabituel parce que les deux sœurs s'entendent très bien, sont très complices.
Oui.
Et Alexandra, sa sœur, trouve bizarre que Lily soit comme ça.
Voilà, c'est la première à se rendre compte qu'il y a quelque chose,
qui ne va pas. Voilà, c'est inhabituel. Et voilà, c'est un changement d'attitude de Lily qui devient plus irritable, plus renfermée, moins souriante.
C'est ça.
Et alors, bon, seul un bon gâteau au chocolat peut les réconcilier, les deux sœurs. Voilà, elles se retrouvent autour d'un bon gâteau et les disputes sont oubliées. Comme quoi, le chocolat...
Ça mène à tout.
Alors ensuite vient l'épisode de la trousse de Lily qu'elle a prêtée à cette Sophia, donc, et qui ne veut pas la lui rendre. Alors, c'est une histoire qui peut paraître banale au début, une histoire de trousse, mais finalement, qui, à la longue, devient...
Pesante pour Lily.
Pesante, oui, parce qu'en plus ses parents lui demandent un peu, mais cette trousse, où elle est, qu'est-ce que tu en as fait? Donc elle ment forcément, parce qu'elle ne veut pas accuser cette Sophia. Enfin, ça prend des proportions. Et cette histoire va même obliger les parents de Lily à intervenir auprès de son institutrice, Madame Valois, pour pouvoir récupérer cette trousse et trouver une solution à cette histoire.
C'est ça.
Donc voilà, là ça commence, voilà, des choses comme ça. Et alors ça continue. Alors Lily se fait ensuite appeler Lilliputienne par Sophia et sa bande. Et cela devient d'ailleurs une ritournelle incessante. Chaque jour, elle la poursuit dans la cour de récréation, en classe, elle lui souffle, voilà, Lilliputienne. Alors effectivement, Lily en souffre beaucoup. Elle complexe sur sa taille qu'elle trouve trop petite, à tort bien sûr. Hein. Elle n'est pas trop petite. Mais
elle est dans la normale des enfants. Mais...
Tout à fait, mais du coup, cette ritournelle incessante va l'affecter énormément.
Oui.
Donc, psychologiquement, ça... Forcément, ça
commence à beaucoup la travailler.
Tout à fait. Alors, on assiste, là, c'est un bon moment, j'ai beaucoup aimé. On assiste à ce beau moment avec Lily et sa famille au spectacle féerique de Disney sur glace.
Oui.
J'y suis jamais allée, mais ça m'a donné envie.
Oui, mais allez-y, tous les ans, ça passe.
Oui, ben voilà, ça m'a donné envie d'y aller. Alors, Marie, sa maman achète à Lily son premier journal intime.
Oui.
Elle se dit que sa fille va pouvoir confier au papier ce qu'elle n'arrive pas à dire, ce qui lui fait mal, ce qui la rend triste. C'est vrai qu'on a tous eu un journal intime, nos
oui.
filles.
Je voilà. pense que toutes, oui.
Voilà, ou presque toutes, on va dire. Mais voilà. Et donc, c'est une bonne idée de la part de Marie, sa maman, de lui offrir ce journal intime pour qu'elle se raconte. Parce que Lily n'arrive pas à
extérioriser,
bien sûr, ce qui lui arrive à l'école. Et puis, un peu de sport en famille, ça ne fait pas de mal. Avec le parcours sportif matinal en famille, suivi d'un bon petit déjeuner sur un banc au parc. Ça, c'est un beau moment aussi où Lily apprécie d'être entourée de
c'est
ses
le bonheur.
Parents, de sa sœur, voilà. Et puis arrive l'épisode de l'écharpe. Alors, l'écharpe de Lily, c'est une écharpe à laquelle elle tient beaucoup, qui a été tricotée par sa grand-mère, je
c'est
crois.
Ça.
Et elle est empruntée, entre guillemets, par Sophia et sa bande. Et bien sûr, elle ne la lui rende pas.
Non.
Et l'écharpe atterrit dans une ruelle derrière, enfin dans un jardin derrière l'école. Et c'est une histoire qui va quand même remonter jusqu'au directeur de l'école et qui fera l'objet d'une punition pour Sophia et les autres, ses acolytes.
Oui, on aurait pu penser que c'était la fin.
Oui, se dire voilà, l'histoire, elles ont compris, il y a eu quand même sanction.
C'est ça.
Connaissance du fait et sanction du fait. Mais oui, on aurait pu croire effectivement que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais non.
Mais non.
Ça va continuer et ça va même empirer. Alors on peut lire des extraits du journal intime de Lily qui finissent à chaque fois par ce refrain lancinant et grave. Moi, à chaque fois que je le lisais, ça me faisait quelque chose. Et demain, ça va recommencer. C'est le titre du livre.
D'où le titre du livre.
Et elle finit à chaque fois, quand elle écrit dans son journal, elle finit à chaque fois par cette phrase. Et ça serre le cœur, parce qu'on se dit, elle retourne le lendemain à l'école et elle sait que tout va recommencer. Alors Lily essaye de se confier à sa mère pourtant, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à tout dire des persécutions quotidiennes qu'elle subit à l'école. Et même, du coup, son récit ressemble davantage à des chamailleries de gamines plutôt qu'à un harcèlement.
C'est ça.
Donc même sa mère ne la prend pas vraiment au sérieux.
C'est ça. C'est... On a du mal à s'imaginer que...
Ce qui se passe. Ce que c'est la gravité réelle de ce qui se passe. La mère pense aussi que ce sont des petites histoires entre filles, qui se chamaillent entre copines. À cet âge-là, c'est vrai que ça peut arriver aussi. Ce sont des choses qui arrivent
ça
aussi.
Ça arrive régulièrement.
Voilà. Alors, Sophia et sa bande, donc, la bouscule, la pince, se moquent de Lily, l'insulte même. Et tout cela... sans que personne ne le remarque, ni l'institutrice, ni le directeur de l'école, ni le personnel. Alors ça, moi, ça, je trouve que c'est assez édifiant quand même.
Oui.
Personne ne le remarque. Dans la cour de récréation, elle s'arrange pour entraîner Lily dans un coin de la cour, où personne ne peut les voir. Voilà. Enfin, je trouve ça, c'est vraiment effrayant, je trouve.
Oui, c'est le terme. C'est vraiment effrayant.
Ah oui.
Et pourtant, ça arrive. C'est vrai.
Mais oui, c'est d'autant plus effrayant que malheureusement, ça arrive, que c'est un fait d'actualité, un fait de société, tout à fait. Alors, Lily attend les week-ends avec impatience, évidemment. On se doute pourquoi, pour être tranquille avec sa famille et sa sœur. Mais dès le dimanche soir, c'est de nouveau les cauchemars, les pleurs, l'insomnie. Et elle n'arrive plus à dormir seule dans sa chambre.
Non.
Et elle veut dormir avec sa mère, ce qui oblige Philippe, son père, à dormir sur le canapé. Donc, c'est un complet bouleversement familial.
Oui.
Ça entraîne, comme on le disait tout au début de l'émission, cette souffrance de l'enfant entraîne la souffrance aussi des parents. Enfin, genre, c'est un complet bouleversement au niveau du schéma familial, parce que le père sur le canapé, la mère qui dort avec la petite, enfin, c'est tout est sans dessus dessous.
C'est ça.
et sans arriver à savoir de quoi il retourne, à comprendre ce qui arrive. Et Lily n'arrive toujours pas à dire ce qu'elle endure chaque jour à l'école. Alors, Marie, sa mère, va à plusieurs reprises voir l'institutrice de Lily, Madame Valois, pour lui demander si elle a remarqué quelque chose de particulier, et lui parle du changement de Lily, lui parle de ses problèmes d'alimentation, de sommeil, qu'elle n'a plus envie d'aller à l'école, elle commence à rechigner à aller à l'école, donc ce qui est quand même assez inquiétant. Et la réponse de la maîtresse est toujours négative, non, elle n'a rien remarqué de particulier, et elle pense même que Marie, que la maman de Lily, attache trop d'importance à cette situation.
C'est ça.
Voilà. Alors la mère de Lily se rassure en se disant que l'institutrice connaît bien son métier auprès des enfants, et que de ce fait, elle lui fait confiance. Donc elle repart en se disant que c'est une passade. Et puis arrive le voyage de classe transplantée.
Oui.
Alors là, je trouve que c'est un cran de plus qui est atteint, puisque Sophia et sa bande en arrivent à la violence physique.
C'est ça.
Avec l'épisode du toboggan. Et elles empêchent même Lily de dormir chaque nuit en se relayant l'une l'autre. Alors ça, moi, je trouve ça aussi, c'est terrifiant.
Ça m'a
terrifiée. On hésite après à envoyer nos enfants en classe transplantée.
Après, ce n'est pas une généralité.
Non,
heureusement.
Bien sûr. C'était un clin d'œil. Mais non, c'est vrai que c'est terrifiant quand même d'en arriver à penser pour des enfants de 9 ans, parce que ce sont des fillettes de 9 ans qui font ça à une autre fillette de 9 ans aussi. Comment dans un cerveau d'enfant de 9 ans, elles arrivent à imaginer un tel scénario de terreur, quoi. C'est quand même, c'est terrifiant, c'est ce que je dis. Alors, il y a un véritable crescendo donc dans l'évolution de cette tragique situation. On est passé quand même de moquerie et de vexation à de la persécution verbale, puis après à de la torture psychologique et enfin à de la violence physique.
C'est ça.
C'est quand même un enchaînement. Et tout ça sans que personne ne remarque rien. Parce que même là encore, Lily ne dit pas la vérité à l'infirmerie au sujet des marques et des bleus qu'elle a sur les bras.
Non.
Suite à l'épisode du toboggan. Elle ne dit pas non plus la vérité ni à ses parents ni à sa sœur. Elle dit qu'elle est tombée.
Voilà.
Et alors, elle a un peu de répit pendant les vacances de printemps avec les activités qu'elle va faire avec sa sœur chez la voisine, la vieille dame, Marthe. Voilà, elles font un tas de travaux manuels, de cuisine aussi, de recettes. Enfin, voilà, donc ça lui fait une soupape un peu
une
décompression. Une coupure, pour essayer un peu d'oublier, tout du moins de changer les idées par rapport à ce qu'elle vit à l'école. Et puis malheureusement, c'est de nouveau la rentrée et la reprise des cauchemars, des pleurs et des nuits dans le lit parental. Et là, Marie décide, donc sa mère décide de lui prendre rendez-vous avec une psychologue. Elle se dit que pour aider Lily à exprimer ce qui la perturbe autant, parce que les parents, là, s'avouent impuissants. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. À l'école, on leur dit qu'il n'y a rien
tout
de particulier.
Va bien.
Lily n'arrive pas à dire toute la vérité sur ce qui se passe pour elle, ce qu'elle endure. Donc, l'alternative, c'est effectivement l'emmener chez une psychologue pour qu'une tierce personne, des fois, on arrive davantage à exprimer les choses. Alors, c'est terrible, je trouve, pour des parents d'être impuissants face à la souffrance de son enfant.
C'est terrible.
C'est
quelque chose, c'est inimaginable.
Oui, parce qu'on se dit en tant que parents, on aime nos enfants, on peut
les protéger
on
peut tout faire.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, pas toujours.
Pas toujours. Alors puis après, une bousculade plus violente que les autres et une de plus qui laisse Lily quand même inanimée pour instant. Lily va se confier à son père, Philippe. Et là encore, elle ne dira pas tout d'un coup, mais elle en dit quand même suffisamment pour que Philippe, se soit très en colère d'apprendre que sa fille vit un calvaire depuis des mois. Et forcément, il va demander des explications au directeur de l'école et à l'institutrice. Donc là, s'ensuit quand même des tensions entre les parents et l'équipe pédagogique, parce que l'équipe pédagogique qui n'a rien vu, qui n'a rien remarqué plus. Donc tout le monde, personne n'a rien remarqué, mais il y a la culpabilité de chacun. Les parents culpabilisent de n'avoir rien vu, l'équipe pédagogique psychologique également. Donc, il y a une tension très forte qu'on ressent dans votre écriture, à ce passage, hein, à ce moment du roman. Et donc, Lily va rester donc avec son père à la maison le temps que les choses se règlent à l'école. Elle va déserter l'école le temps que les choses se règlent. Et puis, Philippe, son papa, contacte même une association pour avoir des conseils sur une situation qu'il ne maîtrise pas du tout, qui lui est totalement inconnue, et pour avoir des conseils aussi sur la manière d'agir avec Lily, avec sa fille, pour ne pas faire d'impair, pour ne pas la brusquer, pour ne pas... C'est difficile.
C'est très difficile.
C'est bien que des associations existent.
Oui, c'est assez récent. J'ai trouvé ça sur Internet.
Oui.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Même l'éducation nationale a un service dédié aussi, maintenant.
Parce que on parle d'une histoire, le harcèlement scolaire, c'est vrai, c'est encore méconnu, mais ça l'était encore plus il y a quelques années. Donc là, on en a parlé davantage ces derniers temps. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mises en place, heureusement. Heureusement, parce que dans ce livre, qui, je le rappelle, est une fiction, ça se finit, entre guillemets, ça se finit bien. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a des cas de harcèlement scolaire qui se finissent beaucoup plus tragiquement, malheureusement. Oui. Et par la mort de l'enfant, qui préfère arrêter de vivre plutôt que de continuer à subir ce genre de situation. Donc là, c'est vraiment extrême. Donc l'institutrice s'en veut également, Madame Valois, on va voir, elle s'en veut énormément de n'avoir rien vu et d'avoir minimisé la situation également. Elle s'en veut beaucoup. Et puis, donc, Lily va réintégrer la classe pour la fin de l'année scolaire, puisqu'on est presque fin juin, toute une année scolaire est déjà passée. Et puis, il y a le bon moment de la dernière sortie scolaire, la chasse au trésor au Jardin des Plantes, qui est un très bon moment, un très beau moment aussi, bucolique et puis convivial et puis gourmand aussi, avec la piñata, voilà. Et puis, en plus, ensuite, il y a bien sûr les vacances... Alors, elle a pu réintégrer l'école parce que, aussi, les choses ont été faites au niveau des enseignants, enfin, de l'enseignante et de directeur de l'école. Ils ont pris des mesures, ils ont convoqué les parents des autres, enfin, des enfants, des fillettes harceleuses. Oui. Voilà, donc, les choses ont été prises en main. Donc, elle a pu réintégrer l'école en toute sécurité, on va dire. Voilà. Et puis après, bien, les vacances, les grandes vacances, c'est l'occasion d'aller pour la première fois pour les deux sœurs, Alexandra et Lily, d'aller en colonie.
Oui.
Et voilà, où elles vont passer des bons moments à la montagne. Et puis après, l'année scolaire va revenir. Elle va rentrer en CM2, Lily.
Oui.
Et elle se pose un peu la question de comment ça va se passer. Et heureusement, il y a une des fillettes harceleuses qui est partie dans une autre école. Mais pas à cause de ce problème,
non.
À cause pour une autre raison. Et ensuite, une autre des harceleuses est dans l'autre classe de CM2. Donc finalement, elle se retrouve, Lily, rien qu'avec ses amis, avec Jules, Emma et les autres, en classe de CM2, afin de faire une bonne année de CM2. Et puis, je laisse aussi aux lecteurs, aux futurs lecteurs, à nos auditeurs, futurs lecteurs, de découvrir bien aussi l'arrivée dans la famille de Lily d'un nouveau personnage qui est Pikachu. Je laisse découvrir qui est Pikachu. Et puis, on retrouve à la fin du roman, Lily qui est en classe de terminale, qui passe le baccalauréat et qui retrouve tout à fait par hasard une des harceleuses, mais pas la plus virulente, et qui va chercher un peu à savoir, mais pourquoi vous m'avez fait ça en classe de CM1. Et en fait, on va apprendre qu'il n'y a pas d'explication.
C'est ça.
Même cette fille qui a elle-même harcelé, qui n'était pas la plus virulente, comme je dis, mais qui a quand même harcelé Lily en classe de CM1, même elle ne sait même pas pourquoi elle a fait cela. C'est terrible quand même d'en arriver à faire des choses dont on ne sait même pas les raisons. Et on le fait quand même, on suit
le chef
la meneuse, et sans se poser de questions. Bon, après, elle s'en est beaucoup voulu. Elle a dit à Lily quand même qu'elle s'en était beaucoup voulu. Et voilà. Donc, c'est un livre vraiment qui aborde un sujet, comme je l'ai dit, grave, fort. Demain, ça va recommencer. C'est aux éditions Edilivre. Et donc, c'était un sujet qui vous tenait vraiment à cœur, Carole ?
Oui, Oui, parce que bon, c'est vrai qu'on commence à en parler beaucoup, mais ça existe depuis très longtemps et je trouve que ça va en s'aggravant. Je trouve que c'est de plus en plus fort. Quand on lit n'importe quel fait divers à ce propos, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur Internet, c'est toujours de plus en plus fort. Il y a de plus en plus d'enfants qui meurent à cause de ça. Donc oui, je pense qu'il était très important d'en parler.
Ils subissent des traumatismes. Après, c'est difficile. Lily n'a jamais oublié sa classe de CM1. Je pense que ce sont des choses qui restent gravées à vie. On ne peut pas oublier ce genre de trauma. C'est vraiment un traumatisme. Et encore, bon, pour Lily, ça s'est, entre guillemets, relativement bien fini. Mais comme on l'a dit, il y a des cas où ça se finit beaucoup plus tragiquement. Et puis, c'est toujours pareil. Les parents ne voient pas forcément. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir. C'est que l'enfant ne laisse pas voir la situation. Les parents ne voient pas. Même les enseignants ne le voient pas non plus. Donc, finalement, c'est vrai que c'est difficile. C'est bien qu'il y ait une évolution et que maintenant il y a des choses qui ont été mises en place au niveau de l'éducation nationale, au niveau de qu'il y a un numéro vert, qu'il y ait des associations qui se soient créées pour justement alerter au moindre signe annonciateur. Et c'est pour ça que je disais que c'était un livre bien sûr pour les jeunes lecteurs, mais aussi pour leurs parents. Oui. Et pour d'ailleurs les enseignants, enfin pour tous ceux qui sont en rapport avec des enfants d'ailleurs.
C'est ça.
Parce que pour être vigilant, pour ne pas oublier d'être vigilant et attentif à ce qui peut se passer et que quand des enfants viennent raconter des petites histoires, alors peut-être que ce sont que des petites histoires de chamaillerie entre copines, mais peut-être pas.
C'est ça.
Et qu'il faut faire la différence et rapidement pour éviter que ça s'empire. Alors, donc, c'est un sujet qui vous tenait à cœur. Et qu'en ont pensé vos filles, vos deux filles? Vous avez deux filles, Caroline, qui sont d'âge scolaire.
Qui sont au lycée maintenant.
Au lycée maintenant. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé du livre de...
Elles ont adoré le livre. Elles se sont reconnues dans certains passages. Forcément, on en met toujours un peu de soi dans un livre.
Mais elles-mêmes n'ont pas vécu, aucune des deux n'a vécu.
Alors la petite, c'est parti parce que la petite a eu quelques problèmes à l'école.
D'accord.
C'est pas son histoire, mais c'est parti de là.
D'accord. Donc elle a reconnu quelques petits passages. Quand on écrit, il y a toujours un peu de soi, de l'histoire de sa famille qu'on met dans son livre, c'est sûr. Donc elles ont, ça a dû les marquer, leur faire...
Et puis elles l'ont vraiment aimé.
Elles ont trouvé que c'était juste, que vous dites. De toute façon, moi, je trouve que c'est très réaliste. C'est une fiction, je le rappelle, mais c'est tout à fait réaliste par rapport
c'est
au
ce que
sujet.
J'ai essayé de faire.
Pardon ?
C'est ce que j'ai essayé de faire.
Ah, mais c'est réussi. Je vous le confirme, Carole, c'est réussi. Alors, d'autres projets d'écriture ?
Racontez-nous. J'ai des recueils de nouvelles qui sont en cours de publication.
Ah, de nouvelles, donc ça sera la première fois des nouvelles.
Et j'ai d'autres, je suis en train d'écrire la suite de mon premier roman.
Baptiste Adelin et le cirque Borzati.
Oui. Donc Baptiste repart pour une nouvelle affaire.
D'accord.
Voilà, et puis plein d'autres projets.
Donc vous reviendrez à page sur Radio Occitanie, nous en parler ?
Bien entendu, si vous m'invitez.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Carole. Donc pour ce livre, je rappelle le titre « Demain, ça va recommencer » aux éditions Edi Livre de Carole Sylvain Laborde. Laborde Sylvain, pardon, j'ai mis en désordre les noms. Alors, quant à nous, on se retrouve pour Page à Page le vendredi 22 décembre pour la dernière émission de l'année 2017 de 14 à 14h30 sur Radio Occitanie. Et je recevrai Chrysostome Gouriot et son roman Rufus le fantôme, publié aux éditions Sarbacane. Restez à l'écoute des programmes de Radio Occitanie et Adiciats. poupou pitoup.